mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde sur Radio Escapade, nous sommes le jeudi 28 mars. Aujourd'hui on va voyager un petit peu, on va revenir sur les élections qui se sont tenues au Sénégal et les périodes un petit peu précédentes, un petit tour en Guyane aussi puisque le président Macron y a aussi eu passé en coup de vent on va dire, et puis des nouvelles des rapports mondiaux sur les pesticides, sur les extractions de gaz et de pétrole. Que du bon quoi, mais avant ça on va commencer avec un petit peu d'autodéfense, un peu d'autodéfense médiatique, voire même journalistique, voir un petit peu comment l'opinion publique souvent se fait, ou semble se, en tout cas se construire dans les grands médias à travers notamment là, ces fameux sondages. Et oui, un sondage qui est passé sur BFM TV, je crois, qui a dû être repris après à droite à gauche. Et c'est le média Contre-Attaque, média en ligne Contre-Attaque, qui s'est fendu d'un petit billet, justement, pour souligner un peu ce qui venait de se passer. On parle de la réforme du chômage. Donc, ça s'appelle « Préparer l'opinion à la casse de l'assurance chômage en une leçon ». Alors que le gouvernement prépare une nouvelle réforme de l'assurance chômage, avec des déclarations sur les nécessaires coupes qu'il faudrait faire dans le budget, 32% des Français estimeraient qu'il faut tailler dans les allocations des chômeurs pour baisser les dépenses publiques. Ça, c'est BFM TV qui titre ça en premier. Il publie en haut titre « Près d'un tiers des Français sont favorables à des coupes budgétaires sur les allocations chômage ». Donc les Français responsables, hein, ceux qui savent mener l'économie, en gros, sont pour. Et vous, si vous n'êtes pas d'accord, c'est que bon, vous allez mettre un petit peu de temps, mais normalement, vous allez finir par être convaincu. Donc une manière de préparer les esprits à un de ces plus grands reculs sociaux des dernières années, à savoir la diminution drastique de l'assurance chômage. Une mesure annoncée par Gabriel Attal, mesure gravissime pour baisser des droits pour lesquels les travailleurs ont cotisé. On parlait de 18 mois de droits qui descendraient peut-être à 12 pour certains cas. Cette mesure va plonger des centaines de milliers de personnes dans la misère. Mais le gouvernement, donc, visiblement, peut compter sur BFM pour tenter de fabriquer du consentement, à défaut de contentement. Alors, on va revenir sur ce sondage, justement, c'est assez limpide. C'est un sondage de l'Institut Elab, payé par la chaîne. Une question demande aux sondés, donc peut-être vous, si vous faites partie d'un panel de sondés, par quels moyens faudrait-il réduire la dette publique française? Question ouverte, avec trois choix de réponse. Et c'est ça qui est utilisé dans le titre par BFM. La proposition qui arrive en tête de ce sondage, eh bien, ne concerne pas justement le chômage et les chômeurs, mais les aides aux patrons. En numéro 1, en effet, 36% des Français veulent baisser les dépenses sur les aides aux entreprises. Ce qui est logique, hein, on sait qu'il y a à peu près 200 milliards d'euros qui sont versés chaque année par l'État français sous forme d'aides au secteur privé, sans contrepartie, ce que certains appellent le braquage du siècle. L'argent public sert en effet à soutenir des entreprises qui réalisent souvent d'énormes profits, ne se privent pas pour licencier leurs employés ou utilisent des main-d'œuvre précaires. Et en plus, ces profits repartent pas forcément sous forme d'investissement, mais plutôt de dividendes chez les actionnaires. Donc si on reprend le fameux sondage sur lequel BFM a acté sa communication, la baisse des allocations chômage comme solution arrive en troisième position. Et oui, bon, si elle arrive si haut, c'est déjà dû au matraquage systémique contre les assistés par les médias depuis des années. Mais ça, après, voilà, ce qu'on répond dans un sondage ou ce qu'on pense de la politique est-il lié à ce qu'on pense vraiment en toute analyse ou juste on répète ce qu'on a entendu dans les médias? Je vous laisserai réfléchir là-dessus. En d'autres termes, en tout cas, BFM stigmatise méthodiquement les chômeurs, puis commande un sondage pour bien montrer que les Français pensent comme eux et le gouvernement. Sauf que le résultat n'était pas conforme à ses attentes, hein. Je vous l'ai dit, c'était pas... le chômage qui était en premier dans les solutions. Comme BFM, visiblement, n'allait pas titrer « Les Français veulent baisser les aides aux patrons », ça, c'est impossible. Eh bien, voilà, c'est une petite manipulation pure et simple avec un titre racoleur. D'ailleurs, une autre question de ce fameux sondage demandait « Par quels moyens faut-il réduire la dette publique ?» Dans l'ordre, les réponses ont été « Une réduction du train de vie de l'État », sachant que la moitié des ministres sont quand même millionnaires, effectivement, c'est assez bien vu. « Une hausse des impôts sur les entreprises ayant fait le plus de profits », ça c'est la deuxième réponse par les sondés. Et enfin, une baisse globale des dépenses. Et en quatrième position, une hausse des impôts des particuliers les plus aisés. Sur les quatre réponses les plus citées, donc, deux visent à taxer les riches. Ça non plus, ça n'a pas été mentionné dans le sujet sur BFM. Voilà un petit cas d'école de fabrique de l'opinion, la désinformation par les milliardaires, pour les milliardaires. Et puis, d'où l'intérêt d'acheter des médias quand même. Quelques petites nouvelles tombées dans la nuit, c'était sur le Courrier International qu'on vous propose des brèves justement de ce qui s'est passé pendant que vous dormiez. On revient sur cette histoire de baiser forcé en Espagne. Le parquet espagnol a réclamé 2 ans et demi de prison pour Rubiales. Luis Rubiales, hein, l'ancien patron du football espagnol, ont été 2 ans et demi de prison donc requis pour lui hier mercredi sous les chefs de agression sexuelle et coercition. C'est le journal El País qui le rappelle. Rubiales, dont la date de procès n'a pas encore été fixée, est poursuivi pour avoir embrassé sur la bouche la joueuse de football Jenny Hermoso sans son consentement après la victoire donc, de l'équipe féminine d'Espagne au Mondial féminin. C'était au mois d'août dernier à Sydney. Ce délit de coercition, c'est un délit qui est lié aux pressions exercées sur la capitaine de la Roja après l'incident. Hein. Et d'ailleurs, cet incident avait provoqué une vague de protestations en Espagne et dans le monde. Mais elle a eu des pressions pour affirmer publiquement que le baiser était consenti pour laver donc son patron, quoi. 3 autres personnes sont aussi poursuivies d'ailleurs pour ce même délit, à savoir Jorge Vilda, l'ancien entraîneur de l'équipe féminine, Ruben Rivera, l'ancien directeur marketing de la Fédération espagnole de football, et Albert Luque, le directeur sportif de l'équipe masculine. Pour chacun de ces 3 bonhommes, une peine 1 an et demi de prison a été requise. Et le procès donc n'a pas encore eu lieu. On verra si ça traîne pas trop pour avoir des nouvelles. C'est aujourd'hui la journée internationale de lutte, ou je sais pas, ouais, de lutte, je crois, en tout cas, la journée de l'endométriose. Et justement, une annonce a été faite ce matin sur France Info par la ministre, c'est que le test salivaire pour détecter cette endométriose sera remboursée d'ici la fin de l'année 2024. C'est Catherine Vautrin, d'ailleurs, qui a annoncé ça. Elle était donc sur France Info, je vous le disais, ce matin. Et elle explique que ce test qui permet de détecter l'endométriose en quelques jours seulement sera pris en charge donc, par la Sécurité sociale d'ici la fin de l'année. Annoncée donc ce matin, elle avait été notamment interrogée à côté de ça sur le refus de la majorité de voter pour la mise en place d'un congé menstruel. Elle a répondu avec autre chose. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Cette invention récente, donc ce test, pourrait changer la donne dans le traitement de la maladie. Il a été approuvé par des hôpitaux publics et des associations de patientes. C'est un test salivaire donc, qui est développé par une entreprise française et qui va bien raccourcir et simplifier le temps de diagnostic de cette endométriose. Avec cet endotest, donc, quelques jours seulement pour identifier cette maladie gynécologique, face à ce qui est aujourd'hui souvent décrit comme une errance médicale, qui peut parfois durer jusqu'à 10 ans pour avoir une détection correcte pour certaines des personnes qui en souffrent, et alors même que cette fameuse endométriose touche 10% des femmes françaises aujourd'hui. En tout cas, derrière les derniers chiffres, effectivement, si certaines ne sont pas sondées, c'est certainement sous-évalué. D'ailleurs, ce test, c'est une entreprise qui s'appelle Ziwig, qui a donc développé et mis au point ce système de diagnostic très rapide. Il a déjà été testé sur 200 femmes dans différents hôpitaux publics, avec des résultats fiables à près de 100%. Concrètement, donc, c'est un tube dans lequel il faut déposer un crachat, un peu de salive, et ensuite on l'envoie au laboratoire par la poste. Le labo établit un séquençage ADN avec cet échantillon de salive pour trouver des marqueurs de la maladie chez la patiente. C'est donc une petite révolution, hein, puisqu'aujourd'hui, il faut passer, déjà, il faut aller se faire prescrire une échographie ou une IRM après examen clinique pour avoir un premier diagnostic. Alors, si ces tests ne sont toujours pas trouvables dans le commerce aujourd'hui, c'est avant tout pour une bonne raison. En effet, la société Ziwig cherche à obtenir le remboursement de ce test par la Sécu, ce qui sera un pas de plus pour permettre au plus grand nombre de femmes d'avoir accès à ce qui est appelé comme une petite révolution. Selon la ministre de la Santé, Le dernier test effectué par la Haute Autorité de Santé aura lieu au mois de juin de cette année et permettra donc d'aller vers le remboursement d'ici la fin de l'année. Et ce sera un énorme progrès pour toutes les femmes. Allez, je vous avais promis de voyager. On part à Camopi, en Guyane, dans le sud-est de la Guyane. Au détour de son voyage là-bas, Emmanuel Macron a été accueilli par les deux communautés amérindiennes qui sont installées dans la région, à savoir les Teco et les Wayapi. Je ne suis pas sûr de bien prononcer. Après quelques échanges autour de la maladie du manioc, qui sévit depuis 2 ans dans le bassin amazonien, et une présentation d'artisanat traditionnel, le président a dégusté la boisson traditionnelle amérindienne, le cachiri, une bière de manioc. Quelques dizaines de minutes après cette immersion express, Macron a rappelé en marge de ses annonces sur l'orpaillage illégal que les peuples autochtones de Guyane ayant été sauvés font par leur culture et leur tradition la richesse de la Guyane, de la région amazonienne et donc de la France. Voilà pour la visite officielle. C'est le journal Reporter d'ailleurs qui s'intéresse pour souligner justement la faible préoccupation du chef de l'État sur les revendications des autochtones. Je continue l'article donc. Au-delà de ce cérémoniel bien rodé, l'Élysée semble pourtant avoir fait peu de cas de ses populations. En 35 heures sur le territoire de Guyane, les déclarations en lien avec les préoccupations amérindiennes du moment se sont faites rares. Et il y a eu d'autres sujets brûlants esquivés, comme l'accès aux services publics ou à la santé pour toute la population guyanaise. Eh bien, le président n'aura pas eu un seul mot pour les populations Kalina, qui sont sur le littoral, ou pour les Wayana du Haut-Maroni. Ce sont deux communautés qui se retrouvent aux avant-postes du dérèglement climatique. En effet, depuis des années, habitants et scientifiques alertent sur l'impressionnante montée des eaux qui menace Awalai et Limapo, c'est dans l'ouest de la Guyane, avec 50 mètres de côte engloutis par l'océan depuis 20 ans. Ce phénomène est évidemment largement dû au dérèglement climatique. Et un autre problème, c'est aussi la sécheresse historique qui a eu lieu en 2023, qui a entraîné une crise de l'eau justement dans les villages amérindiens du sud-ouest de ce territoire. Surtout si Emmanuel Macron a bien discuté de la libération du foncier, donc des terres foncières à des fins alimentaires, avec des représentants justement du monde agricole, il n'a pas abordé ce qui est une épineuse question, une épine dans le pied même, la question de la rétrocession des terres. Cette question oppose les Amérindiens à l'État français depuis les années 1980. En 2017, la France s'était pourtant engagée dans les accords de Guyane à restituer 400 000 hectares de terre aux 6 peuples amérindiens qui peuplent ce département. D'ailleurs, c'est Franck Apollinaire, un militant Kalina, qui connaît très bien ce dossier, qui déplore que les terres de Guyane ont été spoliées aux peuples autochtones. Et notre revendication principale, dit-il, c'est désormais la restitution de ces terres. Et sur ce sujet, nous ne sommes pas plus avancés qu'en 2017, le dossier étant stand-by. Concrètement, il y a eu quand même 760 000 hectares de terres qui ont déjà été rétrocédés depuis ces années 80, et donc la renaissance des luttes amérindiennes. Mais ces 760 000 hectares l'ont été essentiellement sous la forme de zones de droit d'usage collectif. Des terres qui restent donc la propriété de l'État français, mais sur lesquelles le droit des populations, notamment à subvenir à leurs besoins alimentaires, est reconnu. Donc d'aller, par exemple, planter des arbres ou des plantes, et puis surtout chasser aussi. Les concessions et les cessions, ça c'est ce qui permet un transfert de propriété, restent très demandées par les Amérindiens, mais elles sont très rarement accordées. Et ça n'est pas une nuance, hein. Je vous donne un exemple. La lutte de ce village de prospérité, dont on a déjà parlé, c'est un village peuplé par des Kalina, et il se retrouve tout proche d'un futur projet de centrale électrique, une grosse centrale pour alimenter l'ouest de la Guyane. Cette vaste infrastructure, qui est déjà en chantier, notamment de déforestation, elle est très soutenue par les élus locaux, mais elle est dénoncée par les Amérindiens, car ça va entraîner de raser 70 hectares de forêt, et en plus empêcherait l'accès des villageois à ces hectares sur lesquels ils chassent et pêchent, 4000 hectares auxquels ils n'auront plus accès. Ces terres, justement, eh ben, elles avaient été reconnues zone de droit d'usage collectif par l'État en 2021. Donc vous voyez que c'est un droit qui reste assez théorique, puisque du jour au lendemain, si une infrastructure où l'État décide de l'utiliser, bah, votre zone de droit, finalement, vous n'y avez plus droit. C'est pour ça que les collectifs se battent pour avoir vraiment la propriété de ces hectares. Le 15 mars dernier, après des mois de lutte très violemment réprimée, je vous en avais déjà parlé à ce micro, les associations qui représentent les Amérindiens de Guyane ont déposé, donc toujours pour lutter contre cette centrale électrique, une plainte auprès du Comité pour l'élimination de la discrimination des Nations Unies. Ils sont allés à Genève et ils réclament l'arrêt immédiat de ces travaux. Une actualité donc assez récente et brûlante, hein, dont n'a pas du tout parlé Emmanuel Macron sur place. Il n'a pas cherché à apaiser les tensions ou même clarifier la position de l'État sur la question foncière de manière plus large. Question qui continue de raviver les traumatismes de la colonisation.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein !
Des nouvelles du monde.
On va parler un petit peu encore de ce rapport, un rapport sur les pesticides. Un rapport qui s'est retrouvé enterré pendant 8 ans, visiblement sans explication. C'est l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, qui a rendu public ce lundi 25 mars un rapport sur la génotoxicité des pesticides à base de glyphosate. On parle encore de glyphosate. Un rapport donc qui analyse la capacité de ces pesticides à altérer l'ADN. L'ADN des plantes, mais aussi potentiellement de ceux qui les mangent ou qui sont à proximité, donc vous et moi. Ce rapport avait pourtant été présenté en 2016, le 27 septembre 2016, aux instances de l'agence. Et ensuite, il avait disparu, sans être ni rejeté, ni endossé. Donc une situation inédite qui n'était jamais arrivée dans l'histoire de cette agence, selon Le Monde. Peut-être simple hasard. On ne sait pas, en tout cas, il était quand même question de prouver la dangerosité du glyphosate. C'est pourquoi le journal Le Monde a demandé justement à consulter ce document à l'ANSES en octobre 2021, à l'époque, quand ça débattait, il voulait avoir un petit peu des avis scientifiques. Mais l'agence avait refusé à l'époque en expliquant que le rapport n'avait pas été formellement adopté. Donc c'est le journal Le Monde qui a dû porter l'affaire devant un tribunal administratif à Melun, pour obliger l'ANSES à finalement communiquer ce dossier à la veille de l'audience. Dans le rapport, il est écrit qu'il est impossible de se prononcer sur la génotoxicité du glyphosate à la lumière des travaux étudiés. Pas de réponse ni oui ni non. Alors pourquoi est-ce que ce rapport a disparu de la circulation pendant 8 ans ? L'ANSES explique que c'est parce que la question de l'évaluation de cette génotoxicité des produits à base de glyphosate était déjà traitée et résolue au niveau européen, par un groupe de travail mis en place par justement la Commission européenne depuis 2016. Or, c'est complètement faux pour François Vayrette, le porte-parole de l'ONG Anti-Pesticides Génération Future, qui précise que les tests qui sont recommandés par l'ANSES sont justement plus poussés que ceux de la méthodologie européenne. Et bien résultat, à la lumière de ce rapport, donc, les évaluations de pesticides à base de glyphosate ne respectent pas aujourd'hui les recommandations des experts de l'ANSES, puisqu'on a pris en compte les recommandations européennes seulement et qui sont donc moins contraignantes. La confusion autour de ce rapport non publié a été renforcée par le désaccord entre ses auteurs, puisque c'est un désaccord d'ailleurs qui est écrit dans le rapport lui-même. Apparemment, ils ne se sont pas tombés d'accord du tout. Il y a une étude de chercheurs portugais qui démontrait un effet génotoxique d'un produit à base de glyphosate sur des poissons. Donc le glyphosate altérait l'ADN de ces poissons. Presque tous ont estimé que ces résultats étaient entachés de très nombreuses incertitudes et de biais méthodologiques. Un scientifique du groupe a jugé que ces travaux constituaient un faisceau de résultats convaincants qui représentent une alerte sur un effet génotoxique. Donc voilà, il y a visiblement des tensions au sein des scientifiques, c'est un peu étonnant. En tout cas, la lecture de ce rapport de l'ANSES a enfin été publiée ce lundi. Génération Future donc demande toujours aux autorités françaises et européennes de prendre en compte immédiatement les principales recommandations du rapport, notamment en matière de tests de génotoxicité, afin de revoir de toute urgence la réautorisation, vous le savez, qui vient d'être accordée au glyphosate pour 10 ans et qui doit, dans l'attente des résultats de ces nouveaux tests, être suspendue. Voilà, on ne sait pas si ce petit caillou dans la chaussure suffira à suspendre la décision européenne de réautoriser le glyphosate pour les 10 prochaines années. Allez, on part au Sénégal, on va revenir un petit peu sur cette élection présidentielle, j'avais pas pris le temps de me pencher dessus. C'est chose faite. Alors déjà, les résultats officiels viennent de tomber, ils confirment bien la large victoire du nouveau président, donc qui s'appelle Faye. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est de son nom complet. Les résultats ont été publiés hier par la Commission nationale de recensement des votes, et il le crédite bien de 54,28% des suffrages. pour cet opposant qui est donc élu dès le premier tour. Et c'est une première, une grande première dans l'histoire du Sénégal. Et même, on peut dire, des pays alentours, puisque l'opposition politique souvent connaît un sort assez, assez on va dire, compliqué. Le candidat du pouvoir sortant, en tout cas lui, Amadou Ba, est arrivé deuxième du scrutin avec un score de 35,79%, donc une grosse victoire de 20% de plus par Faye, puisqu'il y avait aussi d'autres candidats qui se sont présentés. La victoire de M. Faye, donc âgé de 44 ans, était déjà assurée hein, depuis la publication lundi de résultats officieux provisoires, et c'était même déjà fêté depuis tout le week-end. Amadou Ba, donc le sortant, avait rapidement concédé sa défaite et félicité son adversaire. Son adversaire, donc un candidat anti-système, comme on dit, du parti PASTEF, qui a devancé également très largement ses adversaires, qui l'ont aussi félicité pour sa victoire. Voici ce qu'on peut lire justement dans Libération sur cette saga. Donc déjà, il rappelle que c'est une première pour ce principal candidat de l'opposition qui remporte l'élection présidentielle au premier tour du scrutin. Et il rappelle qu'il est sorti de prison il y a tout juste 15 jours. En effet, à 44 ans, ce candidat donc du PASTEF, ça veut dire les partis des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Cet opposant donc incarne un renouveau radical pour le pays, un ancien syndicaliste, pourfendeur de la corruption, souverainiste, anti-système, aux accents parfois populistes. Il porte un projet de rupture non seulement avec le parti au pouvoir, mais avec la classe politique sénégalaise dans son ensemble. Bon, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Ce dénouement, en tout cas, a été un moment heureux pour la grande partie de la population sénégalaise, qu'il a donc célébré dans la joie. Il avait de très très nombreux supporters, et cela a mis fin à des mois et des mois de crise politique. Il a quand même passé 11 mois en prison, ainsi que son mentor, dont on va parler à l'instant. En tout cas, dès samedi soir à Dakar, donc dans la capitale, sans attendre l'annonce officielle et des 20h, la ville a explosé de joie avec coups de klaxon, courses endiablées dans les rues, vuvuzela, chants, même feux d'artifice, comme une victoire de Coupe du Monde. Tous ont donc salué la victoire de celui qu'ils appellent Diomaye. À minuit, je vous le disais, sept candidats de l'élection avaient aussi déjà de leur côté félicité Faye pour sa victoire. Jusqu'au petit matin, donc les radios et télévisions sénégalaises ont lu les résultats complets de chacun des 16 000 bureaux de vote du pays et de l'étranger. Les résultats officiels donc, viennent juste de tomber. Mais lundi après-midi, déjà, l'ancien président Amadou Ba appelait son concurrent pour le féliciter de sa victoire au premier tour. Le Sénégal avait plongé dans l'une de ses plus graves crises depuis des décennies, après donc le président Sall eut décrété le 3 février un report de la présidentielle prévu 3 semaines plus tard. Les troubles ont fait des dizaines de morts en 3 ans et donné lieu à des centaines d'arrestations. Celui qui devient donc le 5e président du Sénégal aujourd'hui, un pays de 18 millions d'habitants, dormait il y a encore 10 jours en prison. Il y a passé 11 mois, sans être jamais jugé, pour outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué. Le candidat a donc été libéré in extremis à la faveur d'une loi d'amnistie qui a été votée par le Parlement. Il a été libéré donc en même temps que son mentor, Ousmane Sonko. C'est lui qui devait se présenter à l'origine. Sonko, charismatique leader politique, plus âgé, hein, il a 52 ans, c'est lui le véritable leader du PASTEF et c'est lui qui est adulé par la jeunesse sénégalaise. Diomaye, qui est donc aujourd'hui le président, était jusqu'à ce début d'année un homme de l'ombre du parti, organisateur, intellectuel, mais peu connu du grand public. Tout a changé donc au mois de janvier, puisque le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature de Sonko, en raison du fait qu'il ait lui aussi été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation, c'était envers le ministre du Tourisme, et c'est donc son bras droit qui a été choisi comme candidat de substitution du parti. Un plan B donc de dernière minute, mais le plan B a visiblement fonctionné au-delà de toute attente. Ils ont donc tous les deux été libérés il y a une petite quinzaine, et à la sortie, les deux hommes ont repris et mené une campagne tambour battant à travers le Sénégal, attirant dans leur sillage des foules impressionnantes de jeunes supporters. C'est beaucoup la jeunesse qui s'est mobilisée aussi là-dedans. Alors quel rôle jouera maintenant Ousmane Sonko au gouvernement, puisque c'est lui qui a été l'artisan de cette folle victoire. Il ne va certainement pas rentrer chez lui. Le programme du PASTEF prévoit en effet une réforme institutionnelle qui pourrait créer un poste de vice-président de la République, un siège qui lui semble bien taillé sur mesure. Le 15 mars, Bassirou Faye a pourtant déjà écarté cette possibilité en précisant que la proposition ne pourra être mise en œuvre qu'à partir de 2029, après des consultations étendues. En tout cas, pour revenir au nouveau président Bassirou Diomaye Faye, il a assuré ce lundi que son pays resterait l'allié sûr et fiable de tous les partenaires étrangers respectueux. C'était sa première apparition publique depuis que son principal rival avait admis sa défaite. Sur le plan intérieur, le président a indiqué que ses chantiers prioritaires seraient la réconciliation nationale, la refondation des institutions et l'allègement sensible du coût de la vie. En dépit des tensions des dernières années et d'un report de dernière minute de l'élection par Macky Sall, c'est la troisième fois que le Sénégal pratique l'alternance politique dans les urnes depuis son indépendance en 1960, quand il a pris son indépendance de la colonisation française. Si on regarde les voisins, c'est plutôt une succession de coups d'État qui a installé en Afrique de l'Ouest des régimes militaires qui renvoient souvent les élections à une date indéterminée. C'est donc un cas à part et ce scrutin a donc été suivi avec d'autant plus d'attention à l'étranger notamment, puisque le Sénégal est considéré comme un des pays les plus stables d'Afrique de l'Ouest. Dakar maintient pour l'instant ses relations fortes avec l'Occident, tandis que la Russie, elle, renforce ses positions alentour. Et enfin, qu'est-ce qu'il dit de lui-même, ce nouveau président Faye, il se veut le candidat du changement de système et d'un panafricanisme de gauche. Son programme insiste sur le rétablissement de la souveraineté nationale, bradée selon lui à l'étranger. Il a promis de combattre la corruption, de mieux répartir les richesses, et s'est engagé à renégocier les contrats miniers, gaziers et pétroliers conclus avec des compagnies étrangères. Ah, on voit repointer l'or noir. Le Sénégal pourra en effet commencer à produire du gaz et du pétrole en 2024. Super bonne idée ça.
Qu'est-ce donc cette diablerie ?
Des nouvelles du monde.
Ouais, on va terminer là-dessus. Justement, on vient d'apprendre que l'année dernière, donc en 2023, au moins 20 développements de champs pétroliers et gaziers ont fait l'objet d'une décision finale d'investissement. Ces 20 projets devraient donc déboucher sur une production de 8 milliards de barils équivalents pétrole, selon l'édition annuelle du Global Oil and Gas Extraction Tracker, qui a été publié par l'ONG états-unienne Global Energy Monitor aujourd'hui même. Une ONG qui surveille donc ce qui se passe dans le milieu de l'industrie et les investissements justement des énergies fossiles. En plus, 19 nouveaux gisements qui contiennent environ 7,7 milliards de barils ont aussi été découverts en 2023. D'ici la fin de la décennie, les entreprises fossiles ont donc l'intention d'extraire 31,2 milliards de barils répartis sur 64 champs supplémentaires. L'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, avait pourtant averti en 2021 qu'aucun nouveau gisement de pétrole ou de gaz ne devrait être exploité afin de contenir le réchauffement global dans la fameuse limite des 1,5 degrés Celsius, conformément aux objectifs de l'accord de Paris. Mais d'après ce rapport, donc publié aujourd'hui, les producteurs d'hydrocarbures ont depuis cette date donné feu vert au développement des gisements qui renferment, je vous le disais, au moins 16 milliards de barils et ils en ont découvert au moins 20,3 milliards. On peut dire qu'ils en ont rien à battre. Les producteurs de pétrole et de gaz ont invoqué toutes sortes de raisons pour continuer à découvrir et à exploiter de nouveaux gisements, mais aucune d'entre elles ne tient la route. La science est claire, pas de nouveaux gisements de pétrole et de gaz, sinon la planète sera poussée au-delà de ce qu'elle peut supporter, commente pour terminer Scott Zimmerman, justement le chef de projet pour l'ONG Global Oil and Gas Extraction Tracker.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
Et on termine en musique. Allez, je vous ai parlé du Sénégal, ça m'a donné envie d'écouter un peu de son. On va écouter justement à la jeunesse un rappeur qui s'appelle Kergui. Enfin, il est plutôt jeune, mais il a pris part intensément dans la campagne avec des clips qui mettent en scène justement l'injustice et la jeunesse qui en a marre. Dans ce morceau qui s'appelle 4 ou Fort Al-Kati, on y parle notamment de violence sociale et de la corruption des instances judiciaires ou policières du pays. Voilà, c'est Kergui pour terminer avec un peu de hip-hop sénégalais.
Police de nos dans ces scènes anarchie. Bonne nuit, Warty, Blé, Corse, en l'alcène hiérarchie.
Ministre de l'Intérieur, Benek, premier partisan. Dawal, la machine judiciaire, bitraque et opposant.
Aïe, préfet militant, je les accuse au premier pas. Commandement et j'exécute procureur d'œil politique.
Pour l'instruction qui aïe flagrant délit. Encaisse et pot de vin, juge brut, tireur d'élite.
Boudé, nous fait que nous peine, boudé, nous poursuite en vain. Tout autre saisie, roum, pour le doule, article 80.
Nous troquons bien les douanes, bah fesse d'elle, tu bir town bi. Fais petit gilly bon, crack, hair, bah tu brown bi.
Filet, boudé, nous coïs, magouille, l'offre, il règle, fuck, nous mourrons. Police, bourra, milice, tout dieu, comme que tu es bien, roum.
Grâce à Dieu, souffre table, même bon, n'est qu'est ça coupable. Toi, moi, c'est de peine, boy, aurait ce cartable.
Police, bitaille,
fais que les devs, tu fous ma taille.
Tu sais, quand tu es un pipo.
Non, le police, bré, aïe, con.
Aïe, les
des escrocs qui m'accrochent dans la police.
Y'en a à gogo.
Trop, c'est trop.
Police bitaille.
C'est que des devs qui vous m'attaillent.
Ils s'aiment contre une impipo.
Non, le police bré aïe con.
Aïe lèche, corrompu.
Des escrocs qui m'accrochent dans la police.
Y'en a à gogo.
Trop, c'est trop.
Aïe Alka, tu dis aïe prec. Tu clandos, il est n'y frec. N'y aïe compolo, n'y aïe raquette. T'es gâte cambi sur le maquette. Boule nec en règle. Y'a un tout temps, c'est la règle. Tu t'es libéré. Gagne le nuit de laisser les wetchets. Y'a eu job à dealerie, complé sur le salerie. Y'a eu se mettre rire, y'a eu fouf agresserie.
Abus de pouvoir, sag d'or, ils sont hors la loi. Enquête sans ce avocat, salfagner ses droits. Falsifier ce PV, coller le motif. Tour le garde à vue sans nous notifier le motif. Extorquer, aïe aveu, aïe pratique de flic véreux. Corruption judiciaire, tibi régime mafieux.
Police bitaille,
c'est que des devs qui vous m'attaillent.
Ils s'aiment contre une impipo.
Non, le police bré, aïe. Des escrocs qui m'accrochent dans la police.
Y'en a à gogo.
Trop, c'est trop.
Police bitaille.
C'est que les devs qui vous m'attaillent.
Ils s'aiment contre une impipo.
Non, le police bré, aïe.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.